J'ai intitulé mon intervention « Espèce d'espace ». Alors j'avais gardé en sous-titre quand même le titre que vous avez dans le programme, la notion d'enveloppe psychique dans l'œuvre de Geneviève Hack. J'ai emprunté le titre de mon intervention « Espèce d'espace » au célèbre écrivain français Georges Perec, qui a publié en 1974 un remarquable ouvrage dont le titre est Espèce d'espace. On croirait ce livre directement issu des recherches de Geneviève Hack sur la construction du moi corporel. J'en extrais quelques passages qui correspondent quasi parfaitement aux découvertes de Geneviève et à son enseignement. Premièrement, la référence à la sensorialité sous toutes ses formes qui amène Perec à inventer une répartition des pièces d'un appartement selon chaque modalité sensorielle. Je le cite. On conçoit assez bien ce que pourrait être un gustatorium ou un auditoire. Mais on peut se demander à quoi ressemblerait un visoir, un humoir ou un palpoir. Fin de citation. Deuxièmement, les notions de représentation architecturale ou de signifiants architecturaux développés par Geneviève. Je cite à nouveau Perec. Je garde une mémoire exceptionnelle, je la crois même prodigieuse, de tous les lieux où j'ai dormi, à l'exception de ceux de ma première enfance jusque vers la fin de la guerre, qui se confondent tous dans la grisaille indifférenciée d'un dortoir de collège. Pour les autres, il me suffit simplement, lorsque je suis couché, de fermer les yeux et de penser avec un minimum d'application à un lieu donné pour que presque instantanément tous les détails de la chambre, l'emplacement des portes et des fenêtres, la disposition des meubles me reviennent en mémoire, pour que plus précisément encore je ressente la sensation presque physique d'être à nouveau couché dans cette chambre. Fin de citation. Troisièmement, l'idée que l'espace contenu dans l'enveloppe psychique est le lieu de rassemblement et de déroulement de nos expériences existentielles, mais qu'il peut aussi se transformer en claustrum. Encore une citation de Perec. L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction. On a parfois la vague impression que ça se cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre, sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces laps d'espace. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, encore moins de le réinventer. Trop de gens bien intentionnés sont là aujourd'hui pour penser notre environnement. Mais de l'interroger, ou plus simplement encore, de le lire. Fin de citation. Pourrait-on encore voir dans cette affirmation de Perec que vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner? Pourrait-on y voir l'intuition de la bisexualité de l'enveloppe psychique et du danger de se cogner contre ses composantes paternelles dures? Ces convergences entre les intuitions d'un écrivain et les recherches psychanalytiques m'ont frappé et inévitablement fait penser à la trajectoire singulière de Geneviève sur les traces des racines corporelles, sensorielles, architecturales, du moi et des enveloppes psychiques. Les concepts psychanalytiques doivent obéir, je pense, à deux exigences apparemment opposées. La première est de faire un lien avec les expériences corporelles sur lesquelles s'étaye notre monde interne. La seconde est d'atteindre un niveau d'abstraction suffisant pour que nous puissions tenter de rendre compte du développement de la psyché jusque dans ses sphères les plus élevées. Tout le monde a une représentation intuitive de l'enveloppe. Nous nous servons quotidiennement d'enveloppes pour recouvrir des objets, les protéger, les expédier. L'enveloppe, dans ce sens intuitif, est un objet extérieur à ce qu'il contient et il peut en être séparé. J'ai proposé d'appeler modèle postal cette représentation de l'enveloppe. Il a l'avantage de nous parler et de permettre certaines analogies avec les aspects de notre propre corps qui sont en lien avec son revêtement cutané ou muqueux. On parle en effet de l'enveloppe cutanée. Notons toutefois que notre peau n'est pas une enveloppe au sens postal du terme. Nous n'avons pas été mis dedans comme on met une couette dans sa housse. Elle s'est formée à la surface de notre organisme, tandis que d'autres organes se formaient dans l'espace qu'elle délimitait. Le point commun entre l'enveloppe postale et la peau est, me semble-t-il, que toutes deux délimitent un espace interne et un espace externe. C'est bien sûr cette fonction de délimitation qui se retrouve dans l'enveloppe psychique, dans la notion d'enveloppe psychique. La construction d'un monde interne suppose qu'il soit délimité par rapport au monde externe, qu'il est une frontière, perméable sans doute, mais repérable et suffisamment stable. L'exploration psychanalytique a montré que la genèse de notre enveloppe psychique s'étayait sur nos expériences corporelles de surface et qu'elle se trouvait représentée dans nos fantasmes conscients et inconscients, par la peau, la surface du corps. Freud l'avait déjà noté lorsqu'il définissait le moi ancêtre de l'enveloppe psychique, citation que fait souvent Geneviève, le moi, dit Freud, est avant tout une entité corporelle. Il n'est pas seulement un être de surface, mais lui-même la projection d'une surface. Fin de citation. Notre psychisme se sert des expériences sensorielles que nous procure la surface de notre corps pour donner consistance à la représentation que nous nous faisons de la frontière de notre psychisme. Quant à la constitution de cette frontière, il relève, je pense, d'un processus de stabilisation complexe qui se joue au sein d'une relation et qui n'est pas seulement le fruit d'une stimulation. Aussi me semble-t-il nécessaire, tout en reconnaissant les origines corporelles et sensorielles de nos représentations, de les démétaphoriser, de façon à analyser les processus qui sont à l'œuvre dans la constitution de l'enveloppe psychique. Un patient qui m'exprime au retour d'un week-end prolongé qui a entraîné la suppression de 2 séances d'analyse, un fantasme de dépiautage, ne veut pas dire pour autant que je lui ai effectivement arraché la peau par mon absence. Il ne serait pas légitime non plus de penser que lorsqu'il était bébé et que sa mère le quittait, elle lui arrachait physiquement le revêtement cutané. Il semble plus juste de penser que son psyché-soma, pour reprendre l'expression de Bion, n'avait pas acquis la capacité de transformer des expériences de séparation, sans doute trop précoces ou trop brutales, pour qu'il puisse en garder une représentation stable et distinguer séparation affective et arrachement corporel. Geneviève Eck fait plusieurs fois référence à la stabilité dans ses descriptions des relations primitives et de la constitution du moi corporel. Je la cite. On peut se demander si au niveau le plus primitif des yeux dans les yeux, mamelons dans la bouche, ne se constitue pas la structure rythmique du premier contenant précédant la formation stable d'une peau, structure rythmique, appuyée du côté sensoriel sur la kinesthésie du têtement et sur l'image motrice du voyage dans le regard. Fin de citation. Cette nécessité de démétaphoriser m'a conduit vers la notion de stabilité structurelle. Je pense que ce que nous appelons enveloppe psychique est le résultat d'un processus de stabilisation de nos expériences subjectives qui nous permet de nous sentir identiques à nous-mêmes dans toutes les circonstances de notre existence et tout au long de notre vie, quels que soient les événements que nous traversons. Bien sûr, nous connaissons des évolutions, mais malgré ces évolutions, nous nous sentons toujours le même. Ce qui suppose que nous nous différencions d'autrui. Identité et altérité vont de pair. Cette recherche des processus de stabilisation de notre psyché sous-jacente à la constitution d'une enveloppe psychique, m'a conduit à m'intéresser à ce qu'on appelle la théorie mathématique des enveloppes, qui a le mérite de s'appliquer, comme toute théorie mathématique, à n'importe quel substrat, pourvu que l'on puisse mettre en correspondance les phénomènes observés et les objets abstraits dont elle traite. Dans le modèle mathématique, l'enveloppe n'est pas un contenant séparable de son contenu. Elle se forme à la surface des courbes ou des surfaces qu'elle contient. Elle résulte d'un processus dynamique. La notion sous-jacente est issue de celle de dérivée. C'est une fonction tangente à une famille de courbes ou d'espaces. Cette définition renvoie à l'idée d'une forme d'invariance. Chacune des courbes de la famille considérée est semblable à toutes les autres à un paramètre près. Si les courbes en question servent à décrire des phénomènes différents mais similaires dans leur déroulement, l'enveloppe représente une partie stable des phénomènes décrits par cette famille de courbes. Le type de stabilité en question est ce qu'on appelle la stabilité structurelle. Il y a en effet plusieurs formes de stabilité. Le plus souvent, on pense à une forme de stabilité que l'on appelle stabilité simple et qui se caractérise par la fixité du lieu occupé par l'objet. Si l'on prend comme exemple une balle de golf au fond d'un trou, le lieu fixe de la balle est le point d'éclive du trou. Une impulsion donnée à la balle ne lui permettra pas de sortir de ce lieu tant qu'elle ne lui fera pas franchir le bord du trou. L'ensemble de la balle et du trou constitue un système régi par la stabilité simple. La stabilité structurelle est une autre forme de stabilité. Cette fois, ce n'est plus la localisation de l'objet qui est stable, mais sa forme. Tout peut changer. Un flux continu peut se produire. Là où les formes restent identiques à elles-mêmes, ou tout au moins suffisamment semblables pour demeurer reconnaissables. Il paraît qu'un organisme humain renouvelle toutes ses molécules en l'espace de quelques semaines. C'est impressionnant, hein ? Pensez qu'on n'a rien de commun avec ce qu'on était il y a quelques semaines. Et pourtant, nous avons l'impression qu'il est toujours le même. Telle est la stabilité structurelle. Un système dynamique doué de stabilité structurelle peut organiser en son sein des formes stables, bien qu'il soit en évolution permanente. Le lieu, la substance, change. La forme ne change pas, ou peu, en tout cas pas au point de ne plus être identifiable. D'un point de vue théorique, la question est de savoir comment se forme l'enveloppe psychique du bébé au sein du système dynamique constitué par l'enfant en relation avec son entourage. Je pense que c'est l'axe central de la recherche clinique et théorique de Geneviève. Ce système doit être structurellement stable pour permettre la construction de l'enveloppe psychique. Le système en question peut être, pour simplifier, réduit à la relation mère-bébé, qui nous servira de modèle pour réfléchir de manière plus concrète à la genèse de l'enveloppe psychique. Dans l'histoire de la découverte psychanalytique, c'est d'abord la notion de moi, je l'ai dit tout à l'heure, en citant Freud, qui a rempli le rôle que nous attribuons maintenant à l'enveloppe psychique. Ce sont les auteurs post-kléniens qui vont remettre en chantier, dans les années 60, l'étude de ces structures délimitantes. La même année, et c'est assez frappant, 1967, Easterbrook fait un exposé à la Société britannique de psychanalyse sur l'expérience de la peau dans les relations d'objets précoces. Wilfred Bion, dans son livre Réflexions faites, où il commente des textes publiés dans les années 50, introduit l'idée d'une peau psychique. Donald Melzer, tout ça en 1967, décrit dans son livre Le processus psychanalytique la fonction d'un saint toilette, fonction que l'analyste doit remplir pour son patient en recevant et en contenant ses projections. Geneviève Ack s'inscrit dans cette filiation. Elle s'est particulièrement inspirée des travaux d'Easterbrook pour mener ses propres recherches. Bick nous donne une représentation particulièrement claire de la fonction contenante à laquelle se réfèrent les trois auteurs que je viens de citer. Elle part de l'hypothèse toute simple, mais extraordinairement éclairante, selon laquelle les parties de la personnalité n'ont pas spontanément tendance à se lier entre elles. Au contraire, elles tentent à se disperser, à moins qu'elles ne rencontrent un objet, objet au sens psychanalytique du terme, un objet qui les rassemble. Je la cite. La thèse est que sous leur forme la plus primitive, les parties de la personnalité sont ressenties comme n'ayant aucune force liante entre elles et doivent de ce fait être tenues passivement ensemble grâce à la peau faisant office de frontière. La constitution de cette frontière dans l'expérience de la peau précède nécessairement les mécanismes de projection et d'introjection impossibles tant qu'il n'y a pas délimitation entre un espace psychique interne et un espace perceptif externe. Dans la référence que fait Bick à l'expérience de la peau, il ne faut pas, je pense, déduire hâtivement que tout le problème se résume à des stimulations cutanées. Si cette expérience a une place privilégiée pour rassembler les parties de la personnalité et à un stade très précoce de son développement, c'est parce que cette expérience intime est nécessaire pour contenir les angoisses archaïques de l'enfant. Mais elle n'est pas la seule. Et elle ne remplit pas ce rôle que dans une relation chargée d'émotions. Elle ne peut le remplir que dans une relation chargée d'émotions, d'empathie et de communication. Je crois que là encore, la référence à la stabilité et la stabilisation nous éclaire. Easterbrook nous décrit en effet un bébé en quête d'un objet contenant de la façon suivante, je la cite encore, le besoin d'un objet contenant semble, dans l'état infantile non intégré, provoquer la recherche effrénée d'un objet, une lumière, une voix, une odeur, ou tout autre objet sensoriel, qui peut retenir son attention et de ce fait être vécu momentanément tout au moins comme tenant ensemble différentes parties de lui-même. L'objet optimal est le mamelon dans la bouche, accompagné du portage, des paroles et de l'odeur familière de la mère. Fin de citation. Notons qu'Easterbrook ne dit pas que la bouche contient le mamelon. Elle dit que le meilleur objet contenant est le mamelon dans la bouche. Comment comprendre cette inversion des relations de contenance, si ce n'est en remarquant que le mamelon dans la bouche apaise état d'agitation de l'enfant, voire sa désorganisation. Mais en même temps, il lui apporte ce que Freud avait appelé une prime de plaisir, et surtout, il donne une forme stable à l'attente de l'enfant. Souvent, je dis, pour faire image, que c'est comme si l'enfant pouvait dire, après coup, c'était donc ça dont j'avais besoin, qu'il me fallait. Certains patients se plaignent parfois de la distance qui les sépare de l'analyste, d'un écart infranchissable. Ils ont un désir de proximité qui se traduit dans des fantasmes de contact cutané. Par-delà l'érotisation éventuelle de tels fantasmes, il y a chez eux une recherche dans le transfert de cet objet contenant primordial, seul susceptible à leurs yeux d'apaiser leur turbulence émotionnelle. Mais comment passe-t-on de cette stabilisation de proximité dans une totale dépendance à l'objet externe à une forme de stabilisation plus élaborée permettant une meilleure autonomie et une individuation? À nouveau, je vais faire appel au concept de stabilité structurelle. Un patient m'a fait comprendre ce passage, c'est-à-dire un patient adulte, entre ces deux formes de stabilisation. En me décrivant le fantasme qu'il avait, une fois allongé sur le divan, de se trouver dans un petit berceau, comme ceux dans lesquels on dépose les nouveau-nés. Il a ensuite associé avec le souvenir du plaisir qu'il avait, étant enfant, à grimper aux arbres. Et il m'a décrit précisément les mouvements rythmés qu'il devait faire pour attraper une branche après l'autre et s'assurer ainsi d'un appui stable. Nous avons pu mettre cela en correspondance avec le passage d'un mode archaïque de contenance, comme le fœtus in utero contenu dans les enveloppes maternelles, à un autre mode plus actif, plus autonome, comportant des éléments maternels, l'abri de là, et paternel, des branches dont il se saisissait, est marqué par le passage d'une coque dans laquelle le bébé se trouve plus ou moins immobilisé, un rythme qui assure la stabilité et la prévisibilité. C'est précisément le passage d'une stabilité simple, la balle de golf dans son trou ou le bébé dans son berceau, à une stabilité structurelle. Geneviève Vague insiste à juste titre sur l'importance des rythmes pour le bébé. Ce qui le sécurise le mieux, ce n'est pas une mère toujours présente et dans un contact toujours étroit avec lui, mais une mère prévisible, des rythmes repérables, dans la mesure où ces rythmes sont adaptés aux possibilités de l'enfant. Plus l'enfant grandit, plus les rythmes de présence et d'absence de la mère ou de tout autre adulte prenant soin de lui se ralentissent. Daniel Sen a insisté sur les jeux entre mère et bébé qui comportent une violation du rythme attendu. Le jeu de « je vais t'attraper » ou de « la petite bête qui monte » dans lesquels on termine sur un rythme accéléré alors qu'on avait commencé sur un rythme lent. Ces ruptures de rythme paraissent de nature à promouvoir une stabilité structurelle de niveau de plus en plus élevé. Il nous faudrait travailler avec des mathématiciens pour mieux comprendre ces phénomènes complexes qui, tout en permettant la création de nouvelles formes psychiques, renforcent toujours davantage la stabilité structurelle de l'ensemble. N'est-ce pas là une façon de parler de la construction de la personnalité ? Tout adulte qui s'est occupé d'un jeune enfant n'a pu qu'être frappé par le plaisir de l'enfant à répéter inlassablement les mêmes jeux, les mêmes comptines, les mêmes chansons. Il se complaît à un bas niveau de stabilité structurelle, une stabilité circulaire. Le moment venu, l'adulte l'invite à changer d'activité. Un autre jeu, une autre comptine, une autre chanson, ou toute autre chose encore. Ce faisant, s'il le fait à bon escient et sans agressivité, L'adulte aide l'enfant à progresser dans ses niveaux de stabilité et à découvrir l'intérêt et la créativité d'une stabilité structurelle de niveau plus élevé. C'est ce qui lui permet de meubler son espace psychique de tout un monde imaginaire et de développer sa propre créativité. Une dernière vignette clinique me servira à illustrer le thème du théâtre de la bouche que Geneviève Vague a emprunté à Melzer avant d'inventer elle-même le théâtre des mains. Cette vignette en outre souligne la nécessité d'inscrire la bisexualité psychique dans la situation analytique pour que l'enfant autiste puisse déployer un espace au-delà de sa sensualité perverse telle que l'a décrite Frances Tastin et ainsi d'accéder au registre symbolique. Voilà cette vignette. Grégor est un petit garçon de 4 ans gravement autiste qui bénéficie d'une psychothérapie analytique depuis un an et demi. La thérapeute, que j'aide régulièrement dans le déroulement de cette cure, a, sur mon conseil, mis en place une situation de psychanalyse mère-enfant à raison de 3 séances par semaine. Je me suis inspiré de ce que recommande Bianca Le Chevalier pour donner ce conseil, car Grégoire avait de plus en plus de mal à se séparer de sa mère à chaque séance au début de sa psychothérapie. Nous en sommes arrivés à un stade où il accepte de plus en plus volontiers de se séparer de sa mère. Aussi, une séance de thérapie individuelle, chaque semaine, une sur les 3, a-t-elle été mise en place depuis quelque temps. Les 2 autres, pour l'instant, se font toujours en présence de la mère, en attendant d'augmenter le nombre de séances individuelles. Lors d'une de ces séances récentes, Grégoire a voulu ouvrir l'armoire où il sait que se trouvent les jouets des autres enfants suivis en psychothérapie. La thérapeute s'y est opposée calmement mais fermement. Il a d'abord eu un geste de colère, puis il a pris dans son matériel une paire de lunettes jouets sans verre correcteur de couleur rouge et surmontée du Pokémon Pikachu dont la thérapeute m'a expliqué, je lui ai demandé des explications parce que je ne suis pas très au courant des Pokémon. Et elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'un gentil dans la liste des Pokémon. Pour la première fois, il a alors prononcé distinctement 2 mots, rouge, jaune. La thérapeute a mis le rouge en lien avec sa colère. Elle m'a précisé donc que Pikachu était jaune. Cela m'a fait penser qu'il associait alors, sans doute pour la première fois, les 2 aspects opposés de sa représentation des parents actualisés dans le transfert. La rouge, correspondant à sa colère contre le père frustrateur et à un affrontement plus ou moins violent. La jaune, Pikachu, bienveillante et protectrice, grâce sans doute à la conjonction dont nous parle Geneviève Vague, de la contenance maternelle et de la pénétration paternelle du regard de sa thérapeute, symbolisée par les lunettes jouets qu'il avait mises sur son nez. Il n'y a qu'un espace que Georges Perec n'a pas réussi à trouver, qu'il appelle l'espace inutile. Je le cite. J'ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait une pièce inutile, absolument et délibérément inutile. Ça n'aurait pas été un débarras, ça n'aurait pas été une chambre supplémentaire, ni un couloir, ni un cagibi, ni un recoin. Ça aurait été un espace sans fonction. Ça n'aurait servi à rien, ça n'aurait renvoyé à rien. Fin de citation. Ce que l'écrivain n'a pas trouvé, mais dont il avait l'intuition, Geneviève Vague, à la suite de Frances Tastin, l'a mise en évidence au tréfonds de chacun d'entre nous, notre enclave autistique. Cette partie de nous-mêmes qui n'a jamais plongé dans le regard d'un autre, qui n'a jamais été contenu dans un esprit aimé, mais qui parfois nous attire par ses puissances négatives dans la non-pensée, le non-partage, le non-être. Avant que nous rebondissions sur une présence d'arrière-plan, les éclairages profonds qui sont distillés dans l'ouvrage de Geneviève nous serviront longtemps de présence d'arrière-plan pour rebondir, échapper à nos puissances maléfiques et aider nos patients à échapper aux leurs. Pour cela, Geneviève, nous te devons des remerciements sans limite. Merci.